très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Canu Info du jeudi. Nous sommes le 4 février et ce soir avec Laurent, nous allons vous donner quelques infos palestiniennes. Nous parlons des états barbares, c'est-à-dire des états qui assassinent, c'est-à-dire de la peine de mort. Et puis encore une fois, nous allons beaucoup parler BD ce soir. Nous allons parler prix, états généraux, rébellion. On va un petit peu rigoler encore. Nous allons parler de poussins. Enfin Laurent, tu vas parler de poussins, de loi sur le renseignement. Et puis nous aurons un petit peu d'environnement. En deuxième semaine, tu reviendras avec les routes solaires que tu nous avais déjà proposées, mais nous n'avions pas eu le temps dans une émission précédente. Donc j'espère bien que nous allons pouvoir en parler. J'y tiens quand même, j'aimerais avoir ton avis sur la question. Non, mais c'est très sérieux. Et puis, je vous propose de commencer avec Nicolas. Alors, pas celui qui fait des discours populistes, mais celui qui fait rimer écolo avec hélico, Nicolas Hulot.
Eh ben oui, parce que la news du jour, c'était la news de ce matin ou de ce début d'après-midi, c'était que le président François Hollande, qui prépare une réorganisation de son gouvernement.
Ah oui, ça réorganise là déjà.
De son gouvernement socialiste, mais de droite, avait pensé proposer à l'animateur de télévision, l'ancien animateur de télévision, Nicolas Hulot, de devenir le nouveau ministre de l'écologie en remplacement de Ségolène Royal. Il lui créait même un super ministère qui pète de l'écologie et de tout ce qui touche de près ou de loin à l'environnement. A priori, Nicolas Hulot n'était pas super emballé, et c'était pas le seul, parce que bon, à un an et demi de la présidentielle, tout ça, c'est un petit peu court, il aurait rien eu le temps de faire, juste un faire-valoir, et c'était pas le but, en tout cas c'est pas le but recherché par Nicolas Hulot, qui a plutôt envie d'emmerder tout le monde à la présidentielle de 2017, en tout cas d'essayer de mettre la pression sur l'environnement. Donc il a répondu par un petit gazouillis, comme on dit, un tweet en anglais.
Vous remarquerez la formulation, la syntaxe quand même.
Qu'il n'entrerait pas au gouvernement.
Oui. Et il l'a dit, Nicolas Hulot n'entrera pas
au gouvernement.
Il parle de lui à la troisième personne.
Ah voilà. Non, mais attends,
le
c'est
communiqué
normal.
Sous Twitter, il maîtrise mal encore la communication directe comme ça.
Donc voilà, on n'aura pas Nicolas Hulot en ministre de l'écologie.
Donc, ce serait bien marrant.
Sous ce gouvernement.
Ouais. Bon, et on se marre déjà, vous voyez.
Il a beaucoup évolué et en bien, Nicolas Hulot, parce qu'on l'a connu ridicule, on l'a connu pollueur, on l'a connu apprenti écolo avec des idées ultra-libérales. Et ces derniers temps, ses idées écolo sont un peu moins catastrophiques, un peu moins libérales, un peu moins de droite. Il a beaucoup progressé, le petit Nicolas. En tout cas, celui-là et pas l'autre dingue qui se présente en 2017. Et puis, dans les petites infos et les bruits qui courent, il y a des bruits énormes sur une intervention française et surtout internationale en Libye. Et notre ministre, encore ministre, hein, pas pour longtemps peut-être, Laurent Fabius, donc ministre des Affaires étrangères, a répété, parce qu'il y a une réunion à Rome en ce moment contre l'État islamique, il a dit, il n'est pas absolument pas question que nous intervenions militairement en Libye. Il a expliqué qu'il y avait des pressions, qu'il y avait un petit groupe qui faisait pression, mais que ce n'était pas la position du gouvernement. Il a réexpliqué que la France était plutôt préoccupée par la formation d'un gouvernement d'union nationale. Effectivement, hein, on a vu, il y a deux sortes d'entités qui essayent de diriger la Libye, plus ou moins bien et plus ou moins mal, on va dire. Enfin, plus mal que bien, en tout cas. Et la pression, l'idée de la France et la pression que la France, c'est que ces deux entités s'entendent. Alors, il y a eu effectivement une signature d'un accord pour faire un gouvernement d'union nationale, sauf que ça patine un peu. Mais c'est la position de la France. Sauf, quand même, ce qui est bizarre, c'est que depuis plusieurs semaines, et c'est arrivé encore il y a quelques jours, des avions français survolent, notamment des C-135FR, qui viennent espionner ce qui se passe au-dessus de la Libye, au large de la Libye. Donc, ça semble pas tout à fait crédible. Soit il est pas au courant, soit il dit rien et ça se prépare quand même. Ça semble très très louche, hein, ce que au sujet de la Libye. Voilà, donc pour l'instant pas d'infos, mais il y a quand même quelques éléments qui nous permettent malheureusement de croire qu'il pourrait y avoir une intervention française en Libye.
Alors, je crois que tu voulais nous faire petite actu. Palestinienne.
Très courte, avec deux petites infos, enfin une petite et une grosse. La petite, c'est la bonne nouvelle du jour. Ouf, enfin, bonne nouvelle, je sais pas si on peut appeler ça une bonne nouvelle, c'est sur Mohamed Al-Kid. Donc la justice israélienne a suspendu aujourd'hui la détention de Mohamed Al-Kid, qui était détenu donc sans inculpation, sans procès. C'est un journaliste palestinien et il est détenu sur ce fameux prétexte de la détention administrative. La détention administrative, c'est ce truc qui date de, j'allais dire, l'Empire anglais, pas l'Empire anglais, du mandat anglais, hein, au début du XXe siècle, qui permettait d'emprisonner des gens sur une durée longue, puisqu'on peut le renouveler, sans raison. Israël a décidé de garder ça, hein, parce que il trouvait ça très utile pour faire chier les opposants, et notamment les Palestiniens. Du coup, il était en prison depuis le mois de décembre. Il était en grève de la faim depuis 72 jours. Son état de santé était déplorable. Et il y a eu pas mal de mobilisations internationales. Et là, donc, c'est un tribunal, la Cour suprême très exactement, a annoncé que voilà, sa détention sans inculpation, là, sous prétexte de détention administrative, était levée. Alors, il n'est pas libéré, il n'a pas le droit d'aller courir dans la rue, tout ça. D'abord, il n'est pas en état du tout de se lever, d'aller courir. Il est dans un tel état, après 72 jours sans manger, vous imaginez, c'est pas évident. Et en plus, officiellement, il n'a pas le droit de quitter l'hôpital d'Afoula, hein, c'est au nord d'Israël, où il est quand même encore quelque part retenu. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, surtout que la bonne nouvelle, c'est que sa famille va enfin pouvoir venir le voir. C'est le minimum qu'on réclame quand même quand on se retrouve en tôle, c'est que la famille puisse venir nous voir. Ouais, bah en Israël, sous la détention administrative, c'est pas du tout possible. Alors, on rappelle que il est poursuivi en tant que journaliste parce que on lui reproche un activisme politique. Il serait membre du Hamas. C'est les bruits qui courent au niveau d'Israël. Dans les faits, on n'a aucune idée, puisque ce principe de détention administrative, c'est qu'on dit rien sur rien. Donc on ne sait pas du tout pour quelles raisons les gens sont privés de liberté en Israël. Sur cette raison-là, vraisemblablement, c'est qu'effectivement, il est proche du Hamas. Donc c'est pour une raison politique. Et puis la deuxième info d'Israël, c'est la suite de ce que certains avaient appelé l'intifada de Jérusalem ou d'Al-Quds. La troisième, donc, en tout cas, la vague d'attaque ne connaît pas de répit. Il y a eu une petite accalmie. Israël s'est été plutôt réjoui, et puis non, ça a recartonné aujourd'hui, puisque deux adolescentes arabes israéliennes ont poignardé et légèrement blessé un agent de sécurité près de la gare routière de Ramleh, et elles ont donc, ces deux adolescentes, été arrêtées. Donc ça, c'est l'info du jour. L'info d'hier, c'est la tentative d'attentat. Et les conséquences d'aujourd'hui, c'est qu'en Cisjordanie occupée, l'armée israélienne a bloqué les accès depuis hier soir, en fait, à la ville de Kabatiya, donc une ville relativement importante, hein, 15 000 habitants, au sud de Jénine. Pour quelle raison ? Eh ben, les trois jeunes de 19 et 20 ans qui ont tué hier cette garde frontière. Alors j'ai dit, c'était une action terroriste, comme le dit Israël, qui a pas marché. Si, ils sont quand même arrivés à tuer cette garde frontière, mais ils sont pas allés plus loin par rapport a priori ce qui était prévu d'un peu plus important. En tout cas, l'armée israélienne est allée dans sa maison. Et ils ont commencé à prendre les mesures. Et quand l'armée israélienne prend les mesures d'une maison palestinienne, c'est que derrière, ils vont lancer la procédure pour détruire la maison palestinienne. On rappelle que ça s'appelle une sanction collective, c'est-à-dire quelqu'un fait un acte délictueux, on détruit sa maison, donc le lieu d'habitation de toute sa famille. Et en Palestine, notamment en Cisjordanie, c'est pas simplement un couple qui habite, des parents et des enfants, c'est souvent les grands-parents aussi, souvent plusieurs générations. Du coup, ces sanctions collectives qui sont interdites, hein, au niveau international et qu'applique régulièrement Israël, elle va l'appliquer vraisemblablement auprès des familles de ces jeunes, puisqu'elle semble prévoir la destruction de leur maison. Donc voilà, ce qui veut dire qu'effectivement, ça ne se calme pas. 164 morts palestiniens, 26 israéliens, un américain et un érythréen depuis le 1er octobre, depuis le début de ces nouvelles violences, nouvelles formes. Hein. On a vu des agressions au couteau, hein, ce qui était le cas de ces deux palestiniennes aujourd'hui, de ces deux adolescentes, arabes israéliennes d'ailleurs plutôt. Et mais l'attaque d'hier, c'est un petit peu nouveau, puisque le Palestinien était armé de pistolets mitrailleurs et d'engins explosifs qui n'ont pas explosé. Donc ça, il y a peut-être une échelle qui est franchie, un palier de l'échelle, on va dire plutôt. Malgré les réactions du gouvernement israélien, qui a envoyé de manière massive des policiers, des militaires à Jérusalem notamment, qui a accéléré les démolitions punitives de maisons, qui a assoupli les règles d'ouverture du feu pour les policiers et les militaires, qui arrête et met en prison à tour de bras, eh ben ça semble pas limiter pour l'instant la résistance des Palestiniens, qui ont pas beaucoup d'espoir. Dernière info d'aujourd'hui, c'est une info plutôt positive. Si vous vous rappelez, en 2014, des adolescents israéliens, enfin non, des jeunes israéliens, sont allés brûler vif un adolescent palestinien. En vengeance d'un truc qui s'était passé la veille, mais que ça concernait pas du tout ce palestinien-là. Donc ce palestinien qui a été assassiné avait déclenché des réactions internationales un petit peu, parce que c'était relativement horrible, hein, de brûler vif quelqu'un. C'est difficile à accepter. Et ça avait d'ailleurs déclenché quelque part la guerre à Gaza, parce que ça avait eu des réactions un peu partout. Le procès avait lieu aujourd'hui, le verdict était attendu, et donc il a été requis la prison à vie contre les deux Israéliens, ce qui est une bonne nouvelle pour apaiser les choses, parce qu'ils sont reconnus coupables de ce meurtre de manière ignoble. Tout le monde avait peur un petit peu qu'il y ait une justice clémente, et non, la justice a fait son travail en Israël, là, sur ces Israéliens, donc ça peut calmer un petit peu les choses. Le troisième Israélien n'a pas été jugé, puisque lui, il est sa santé mentale en tout cas est mise en cause, et donc ça va être examiné le 11 février prochain. Voilà pour les infos palestiniennes.
Alors on va passer aux barbares, à ces États qui assassinent au nom de la justice. Et on part d'abord en Géorgie, c'est aux États-Unis d'Amérique. Excusez-moi, c'est l'hiver. Et on va parler de Brandon Jones, qui avait passé 36 années derrière les barreaux. Il a été exécuté en début de semaine. Il allait fêter son 73e anniversaire.
Ah oui, c'était encore un dangereux criminel.
Ah oui, tout à fait. Et puis alors, effectivement, 36 années d'attente. Hein, ses avocats avaient tout fait dernièrement pour repousser cette exécution. Il a été exécuté par injection létale. Alors, il faut dire que l'année dernière, la Géorgie n'ayant plus de produits, les exécutions avaient été stoppées, ce qui était plutôt une bonne chose. Alors, il avait été condamné avec Van Salomon. Il avait cambriolé en pleine nuit une petite supérette. C'était dans une station-service. Et le gérant avait été tué par balle. Et tous les deux, Brendan Jones et Van Salomon, s'étaient en fait accusés. C'est-à-dire que
personne... L'un l'autre.
Voilà, l'un l'autre. Hein, ils niaient tous les deux avoir tiré sur le gérant. Van Salomon, lui, avait été exécuté en 85.
Ah, il avait été beaucoup plus rapide pour lui.
Ah ouais, ouais, tout à fait. Alors, il a eu en 97 un deuxième procès, puisque en fait, lors de son premier procès dans les années 80, il s'est avéré que les jurés avaient consulté la Bible pour leur délibération.
Donc ils avaient fait le œil pour œil, dent pour dent, là, c'est ça?
Voilà. Donc, sauf que le deuxième jury l'avait aussi condamné à mort. Alors, Brendan Jones, il s'est fait connaître aussi parce qu'il a écrit sur la prison, sur ses conditions carcérales, et puis aussi sur les questions raciales, parce que et Van Salomon et Brendan Jones étaient noirs, et c'est aussi un de ces symboles de la peine de mort aux États-Unis. C'est d'abord la longueur d'attente, hein, on reste pendant très longtemps dans le couloir.
Ce qui s'apparente à de la torture.
Et puis une remise en question de certains procès qui ont eu lieu il y a plusieurs décennies, et du fait que les accusés n'ont pas pu se défendre correctement, et c'est le plus souvent des noirs qui n'ont pas eu accès à une justice correcte. Donc voilà, ça reprend hein, aux États-Unis d'Amérique aussi peine de mort. Et puis, comme chaque semaine, nous allons continuer le décompte en Arabie Saoudite. Et ouais, nous en étions lundi.
Pour le coup, ils sont quand même super efficaces par rapport aux États-Unis d'Amérique.
Ah oui, mais il faut dire
que là,
pour le coup, les procès sont encore plus aboutis, si tu veux, hein, quand même.
C'est expéditif.
Exactement. Donc, en début de semaine, lundi, nous en étions à 56, puisque Ahmed Al-Arbi a été exécuté, d'après les informations données par le ministère de l'Intérieur saoudien. Il avait été reconnu coupable de meurtre. Ça c'était donc lundi, et puis comme l'Arabie Saoudite, comme tu le dis, est d'une certaine efficacité, c'est hier mercredi un autre homme qui a été exécuté, décapité au sabre. C'était mardi, excusez-moi. Il était aussi accusé de meurtre, donc voilà, ça continue, hein. Je peux vous faire un décompte toutes les semaines, vous verrez, il y aura forcément quelque chose. Nous en sommes donc à 58 exécutions en Arabie Saoudite, hein, pour ce que nous en savons. Alors oui, dans d'autres pays, ça exécute aussi beaucoup, hein, comme l'Iran. Mais alors là, quand même, ce sont aussi, je vous le rappelle, hein, un des partenaires importants de notre économie française. Alors la bonne nouvelle, ça va pas durer longtemps, hein, d'accord, je vous préviens tout de suite. Hein. Ça concerne Asrad Fayad, qui ne sera pas exécuté. Sa peine de mort a été commuée en 8 ans de prison et 800 coups de fouet.
Voilà, 800 coups de fouet, c'est, j'espère pour lui, ça sera pas trop loin de la peine de mort.
Là, hein. Je vous rappelle qu'il a été condamné pour apostasie en novembre dernier. Il avait déjà été arrêté une première fois en 2013. Il avait été relâché, puis de tout arrêté en janvier 2014. Et puis voilà, alors d'après ce qu'on en sait, les 800 coups de fouet vont être répartis en séance de 50 coups de fouet chacune. Ça va durer un petit moment, hein, je vous laisse faire le calcul. Hein. Voilà, c'est ce qu'on sait. Bon, ça reste une bonne nouvelle. Ouais, je laisse un petit moment de silence hein, quand même, excusez-moi. Et puis une autre nouvelle, ça vient de la Chine, hein, la Chine qui exécute aussi beaucoup. Et ben on a appris que un tribunal populaire dans l'est de la Chine avait annulé un verdict de culpabilité qui concerne Chen Men. Il a été libéré, il a actuellement une cinquantaine, il avait été arrêté en 92 pour incendie criminel et meurtre, et il avait été condamné à la peine de mort avec 2 ans de sursis. Oui, la Chine pratique la peine de mort avec sursis. Ce qui veut dire que si jamais Shenman avait été sympathique pendant ses premières années d'incarcération, sa condamnation à mort aurait pu être commuée en prison à vie. Sauf que non, vous voyez, il était toujours condamné à mort et en fait le tribunal a reconnu que la sentence prononcée était basée sur peu de preuves ou voire pas du tout. Et d'ailleurs le tribunal insiste sur le fait que il peut demander des compensations à l'État. Il y a des choses qui bizarres des fois en Chine, hein, qui se passent quand même, il faut le dire. Voilà, c'était aussi, je trouvais, une pas mauvaise nouvelle dans le cadre de cette barbarie. Et puis c'est en Égypte où vous savez il y a aussi ces procès massifs avec des condamnations tout aussi massive, avec des condamnations à mort. On a appris que hier, qu'un tribunal, c'est la Cour de cassation égyptienne qui a annulé hier donc la peine de mort de 149 personnes de la confrérie des frères musulmans, qui avaient été accusés du meurtre de 13 policiers en 2013. Alors, il faut dire que la Cour de cassation, ces derniers temps, est en train de remettre son nez dans ces procès de masse depuis ces derniers temps. Hein. Al-Sissi ne fait pas dans la demi-mesure, il faut le dire. Donc c'est pareil, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ces procès étaient faits à la va-vite. Ils ont été critiqués hein, quand même, même par l'ONU, qui les a qualifiés de sans précédent dans l'histoire récente du monde, hein, quand même. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose, mais enfin en Égypte ça reste quand même très très compliqué. Il y a quand même un gros nettoyage qui est fait, que ça soit d'abord dans auprès des frères musulmans, puis avec la société civile, et puis maintenant c'est aussi avec la culture. Ça se passe pas très très bien en Égypte, il faut le dire quand même.
Alors on va revenir sur l'actualité BD avec un gros truc. Voilà, on va faire un truc un peu pour se détendre avec le prix Tournesol. Alors c'est quoi le prix Tournesol ? Donc c'est lors du fameux festival qui a été très fameux cette année, le Festival international de la BD d'Angoulême. Plus grand festival de BD de France, où est remis par les Verts le prix Tournesol qui récompense la BD la plus écolo de l'année. Cette année, c'est un Américain qui l'a eu, qui s'appelle Derf Bagderf, pour sa BD qui s'appelle Trashed, une BD qui est sortie sur un petit éditeur qui s'appelle Saïla, hein, qui a eu deux prix d'ailleurs récemment, donc c'est très bien, un petit éditeur qui a un bilan juste équilibré. C'est pas facile de faire de la BD indépendante de nos jours. Donc c'est un roman graphique, comme on dit dans les milieux autorisés. Et en fait, Derf, il raconte sa vie quand il était jeune et qu'il a fait ce métier, qu'il a cherché du boulot pour gagner un peu d'argent et il a été éboueur. Et on voit sa vie d'éboueur. Du coup, on voit aussi le problème du déchet, de l'élimination des déchets, de la surconsommation américaine. C'est pour ça qu'il a pu avoir ce prix Tournesol, alors qu'au départ, c'est plutôt centré sur lui, sur sa relation aux autres dans le cadre de ce métier, mais c'est effectivement le camion de poubelle qui est le thème central de cette excellente BD. Bagderf, il s'était fait connaître hein, pour je me rappelle plus l'avant-dernière, mais celle qui l'a fait connaître, c'était Mon ami Damer, une BD où il racontait sa relation avec un Damer qui est un serial killer qui était dans son lycée du coup et qui a été arrêté bien après, hein, qui avait tué plein de gens, et donc du coup il raconte ce qu'il connaissait de lui et c'est ça qui l'avait fait connaître, une très belle BD sur voilà quelqu'un qui a été un grand criminel après, comme ils savent faire aux États-Unis, un serial killer. Donc voilà quelqu'un qui est assez bon, qui a pas fait beaucoup de BD, Derf Bagderf, mais voilà, qui commence à avoir une petite aura dans la BD indépendante américaine.
Et puis on va parler d'un autre prix, on vous avait annoncé ce prix, le prix Kouyoku. Oui, je sais, c'est vulgaire, provoquant, mais c'était une réponse à l'abandon du prix Charlie Hebdo de la liberté d'expression, cette année donc au Festival international d'Angoulême. Et c'est Nadia Kiari qui a reçu ce prix Kouyoku, hein, le machin est tout aussi vulgaire que le nom, hein, je vous le dis.
Tu veux dire la statuette ?
Voilà, exactement, ah, c'est pas une statuette à ce niveau. voilà, excuse-moi, mais moi j'appelle pas ça une statuette. Appelle ça comme tu veux. Vous la connaissiez, Nadia Cari, elle fait Willis from Tunis, ce petit chat satirique qui est apparu, tu sais exactement Laurent, qui est apparu pendant la révolution tunisienne. C'est un dessin souvent en noir et blanc, un trait très simple. Il a souvent des grandes dents bien pointues. Il s'en prend à la fois à l'État, aux politiques, mais aussi au sexisme. Voilà, donc c'est plutôt bien que Nadia Cari ait reçu ce prix du courage artistique d'un auteur. Voilà, c'était le prix donc Kouyoku. Je ne sais pas si on aura une nouvelle édition l'année prochaine. Et puis alors, l'affaire de la semaine, parce qu'on rigole quand même dans le petit monde de la bande dessinée française. Après le Festival international de la bande dessinée et toute son scandale, ses polémiques, on a donc appris que des auteurs de BD viennent de refuser d'être élevés au rang de chevalière des arts et des lettres.
Bon, elles étaient élevées au rang de chevalière là, des arts et des lettres. Ça semblait être un truc pour compenser les accusations de sexisme du Festival d'Angoulême. On n'a pas de preuves, mais sentait bien ça comme ça.
C'était l'idée de Madame Pellerin, notre ministre de la Culture, qui la semaine dernière, c'est vendredi, au Festival, a annoncé ces nominations. Alors, il y avait 8 personnalités de la BD. On y retrouve Julie Marot, Chloé Cruchaudet, Aurélie Néret, J'ai fait une bêtise, Marguerite Abouet, Christophe Blain, Mathieu Saint et Riyad Satouf. Alors, il y avait aussi Glénat, qui a obtenu le rang d'officier en tant qu'éditeur. Donc, dans celle que j'ai oubliée, il y a Tanks, évidemment. On va y revenir, parce qu'elle est super. Alors, oui, il paraît que c'était le symbole du talent français de la part de Fleur Pellerin, hein, qu'elle aimait, elle trouve que c'est bien, que c'est une bande dessinée engagée. Alors, les 4 qui ont refusé, c'est Tanks, Julie Marot, Aurélie Néret et Chloé Cruchaudet. Tanks, vous pouvez aller voir sur son blog qui s'appelle Des croûtes au coin des yeux. Elle a écrit un papier le 31 janvier qui s'appelle Les pieds dans la merde. Et c'est très très drôle. Je vais vous en lire des petits bouts. Elle commence par: avant de partir au Festival international de la BD sécuritaire, je possède ce statut sur mon Facebook perso, des anarchistes républicains, des patrons anarchistes, bientôt des poules avec des dents et mon cul sur la commode. Eh bien, les poules dentées sont là et mon cul est bel et bien sur la commode. Me voilà bombardé, chevalier des arts et des lettres. Bon, elle a pas sa langue dans sa poche. Si vous connaissez son dessin, c'est un dessin qu'on pourrait dire trash, hein, qui envoie, hein, les nanas qu'elle dessine, c'est pas des jolies petites poulettes, hein, elles ont une certaine personnalité. Alors, elle se demande si le ministère et plus largement le gouvernement doit être bourré. Je ne vois pas d'autre explication. Alors, ça l'a fait bien marrer, hein. Alors d'abord, on sent qu'elle est très en colère, mais on sent que finalement, ça l'a fait vraiment bien rigoler toute cette affaire. Quel cynisme faut-il pour prétendre honorer l'engagement sans sourciller quand on est dans un gouvernement, et celui-ci comme n'importe quel autre. Oui, voilà. Elle a quand même une certaine opinion. Donc elle s'énerve beaucoup. Elle dit: mon engagement est celui des prolos et ma culture est aussi celle des prolos, loin des salons feutrés, des cocktails à la con et des trites honorifiques de l'État et de ses singeries. J'ai trop de respect pour l'engagement, trop d'amour pour la culture qui me tient debout et j'ai trop les pieds dans la merde pour être ébloui par du fer blanc. Chevalier mon cul, que crève l'État et son ministère.
Oh putain, ça pète.
Ça pète, hein. Bravo. Ça pète comme son dessin. Il faut le dire, hein, quand même. Voilà. Donc, la deuxième, elle en a fait un deuxième, hein, sur le 2 février qui s'appelle Le Profit. Parce qu'a priori, il y a des gens qui lui ont dit: tu devrais en profiter. Alors, elle s'énerve sur la notion du profit et de dire que de toute façon, tout ça ne sert à rien et qu'elle a toujours rien à faire des joujoux de l'État, hein, qu'est la communication. Voilà. Elle dit: ce qu'on retiendra, c'est la photo, toi et ton air con, avec ta médaille à 120 boules, oui, parce qu'il faut la payer, la médaille. T'auras beau dire tout ce que tu veux lors de cette remise, tu pourrais même chanter l'international avec ton slip sur la tête. Tout ce qui sera retenu, c'est que t'es allé chercher ta breloque et le ou la ministre aura le même air satisfait. On ne discute pas avec l'exploiteur. Voilà. Une bonne femme engagée, moi je vous le dis. Alors deuxième qui a suivi, c'est Julie Marot. Vous savez, c'est le bleu est une couleur chaude qui a inspiré le film La vie d'Adèle. Elle a écrit un papier le 1er février sur son blog. Chevalier de quoi? Ça l'énerve beaucoup, elle aussi. Par exemple, elle comprend pas pourquoi elle. Déjà, elle dit: j'ai 30 ans, merde. J'ai publié 2 romans graphiques, ouais, d'esthétique, ça. Ni singulière, ni aboutie. Je n'ai pas fini de m'engager et surtout, je ne suis le symbole de rien. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi une analyse de leur propre travail, de leur propre contexte, de leur propre situation. Voilà. Enfin, elle s'énerve beaucoup aussi là-dessus. Elle dit les auteurs et les autrices de bande dessinée ne veulent pas de médaille en chocolat de la part du gouvernement. Nous ne voulons du dialogue et du et des mesures concrètes. Nous y reviendrons sur cette difficulté. On a eu ensuite Chloé Cruchaudet. Qui a aussi réagi. On a eu Aurélie Nérec, que moi je connais pas bien. Elle fait des choses surtout pour les enfants. Elle dit qu'elle est pas dupe, qu'elle sait que c'est pas pour son travail, mais c'est que de la récupération politique. Chloé Cruchaudet, elle dit pour clore cette histoire qui m'a fait rire un court instant, le temps de me dire que ça va faire bien plaisir à mon pépé, qu'on va bien rigoler si je peux inviter plein de picassiers de copains à boire des coupettes au ministère. Au final, je ne veux plus en entendre parler et je souhaite être retirée de cette liste. Donc voilà, on sent quand même quelque chose d'assez fort. Alors, dans ceux et celles autres qui ont été promus à cette chose, on pourrait parler par exemple de Christophe Blain, Quai d'Orsay. Ça vous dit peut-être quelque chose. Alors lui, il trouve que cette polémique est ridicule, et lui, il va accepter la médaille. On pourrait parler aussi de Riyad Satouf, qui accepte avec plaisir cette distinction. Alors lui, il explique en fait que venant d'un milieu modeste, il a grandi aidé par l'État républicain, qui lui doit des décennies d'allocations familiales, sans lesquelles il n'aurait pas mangé, plusieurs décennies d'aide au logement, sans lesquelles il n'aurait pas eu de toit, et plusieurs décennies de bourses scolaires diverses et variés sans lesquels il n'aurait pas fait l'étude, et que grâce à ce soutien, aujourd'hui, il souhaite écrire et dessiner des bandes dessinées et payer des impôts pour que d'autres puissent également continuer de bénéficier de ce fragile soutien. C'est ce qu'il écrit, donc avec de l'humour, mais il va quand même aller chercher la petite breloque, hein, voilà. Il a expliqué aussi que il allait discuter avec la ministre de l'appauvrissement des auteurs et exiger des réponses claires de sa part. Alors, on va juste lui rappeler que la ministre de la Culture, Madame Pellerin, elle y peut pas grand chose dans les discussions qui vont avoir lieu, puisque c'est le ministère des Affaires Sociales qui s'occupe de ces négociations. En tout cas, effectivement, en ce moment, il y a aussi des états généraux dans la BD qui font aussi que ça s'agite un petit peu.
Oui, alors les états généraux, c'était l'idée de faire un bilan juste avant le festival d'Angoulême sur l'état de la BD. Et des gens, des auteurs. Donc les auteurs, hein, c'est à la fois les scénaristes, ça on les connaît, les dessinateurs ou les dessinatrices, on les connaît aussi, et puis les autres, hein, les petites mains, ceux qui font le lettrage, ceux qui font la mise en couleur, parce qu'on en parle beaucoup moins, hein, c'est assez complexe comme métier finalement. Et donc, il y a une enquête qui avait été lancée par ces états généraux du 15 septembre au 15 novembre et qui a recueilli 1500 réponses, donc de gens qui travaillent dans la BD. Alors, c'est pas forcément représentatif de tout le monde, mais c'est déjà un chiffre très très important. Et ce qu'on apprend dans ce chiffre, c'est que dans les réponses, par exemple, il y a eu 27% de femmes, ce qui est beaucoup plus que le chiffre habituel qui est balancé par tout le monde, qui est 12,4% de femmes dans la BD. Alors, soit elles ont plus répondu, elles sont plus impliquées, soit le chiffre est pas forcément le bon. Alors, ça nous donne, du coup, c'est des états généraux, un état des gens qui travaillent dans la BD. Il y aurait 56% d'auteurs jeunes qui ont moins de 40 ans. Et alors, si on regarde les femmes, c'est encore plus flagrant. La moyenne d'âge des femmes, c'est 34 ans. Ça veut dire, et la moyenne des hommes, c'est 41 ans. Ça veut dire que globalement, les femmes sont en train de rentrer dans la BD puisqu'elles sont plus jeunes en moyenne que les hommes, et que petit à petit le chiffre de la proportion de femmes dans la BD va forcément augmenter, ça va être mécanique, hein, sinon il n'y aurait pas cette différence d'âge, hein. Donc il y a une féminisation de la BD qui est importante, hein, parce que pour ceux qui lisent des BD, il y a 20 ans, il n'y avait pas de BD de femmes quasiment, à part Brett Eschet et Chantal Montelier. Donc effectivement, ça a pas mal changé. Et le plus intéressant après, c'est ce qui vient, c'est sur la précarité. Les auteurs interrogés se définissent à 15% comme amateurs, 53% comme professionnels précaires, et seulement 32% comme professionnels installés. Sur le niveau de formation, 79% fait des études supérieures. C'est assez global, ça, sur la BD. Ils expliquent qu'ils travaillent beaucoup, en moyenne 40 heures par semaine, un week-end de temps en temps, et pour certains, tous les week-ends, notamment pour boucler les albums. que la protection sociale est très très faible dans la BD, hein, puisque ils disent 88% n'ont jamais bénéficié d'un congé maladie, même quand ils étaient malades. Donc des choses comme ça. On apprend aussi que le revenu moyen de la moitié des gens qui ont répondu est inférieur au SMIC. D'ailleurs, dans les questionnaires, on se rend compte qu'il y en a plein qui ont un deuxième métier. Hein, que la BD, ils voudraient en vivre, mais qu'en fait, ils en vivent pas, puisqu'ils ont une autre activité, l'enseignement notamment, dans les matières artistiques, des choses comme ça. Voilà, bon, il y a toute une étude, c'est un premier jet, il y en aura d'autres, chaque année ça va être amélioré, on aura une idée un peu plus précise des enjeux et des conditions sociales dans la BD. On sait qu'elles sont dégradées, hein, il sort beaucoup de BD, la moyenne des ventes est très faible, on n'est pas tous, on n'écrit pas tous des BD d'Astérix ou de 13. Du coup, effectivement, la situation reste très très difficile. Donc voilà, les prochaines, il y aura sûrement un nouvel état général de la BD. On l'espère que ça va continuer chaque année. En tout cas, l'enquête va continuer, ils vont prendre 25 auteurs représentatifs pour les étudier plus particulièrement.
Oui, puisque là, il y a des négociations en cours pour le droit des auteurs, des BDistes et tout ça. C'est pour ça qu'effectivement, le gouvernement est sur l'affaire. Alors quand même, moi, je voudrais juste finir cette histoire de BD en attendant vivement l'édition 2007 du Festival de BD international d'Angoulême. J'avoue qu'un jour, Laurent, je t'ai dit, et si le Canu Info partait à l'édition 2016 d'Angoulême, tu me dis, oh là là, je regrette, parce que franchement, qu'est-ce qu'ils se sont marrés cette année. La dernière affaire a été évidemment cette remise de prix qui a un petit peu... foiré, on va dire ça comme ça.
L'animateur a fait de l'humour déplacé.
Enfin, alors, ça, oui, ça a été mal. Richard Gatet, qui anime Nova Book Box sur Radio Nova, qui est quelqu'un de sérieux dans son travail, qui est reconnu comme tel, a donc été chargé d'animer cette soirée. Et il est parti avec une idée, faire un faux palmarès. Il était habillé en Fantasio avec son costume bleu. Et donc, il a fait un canular, il a annoncé des faux prix. Ça a duré un peu plus de 8 minutes hein, son affaire, donc c'était très très court. Et la supercherie a pourtant tellement bien marché qu'il y avait des éditeurs qui étaient déjà en train d'envoyer des SMS et des mails de partout. Alors en réaction, il y a les éditions Cornelius qui ont imprimé un petit autocollant avec la mention Faux Fauve d'Angoulême, prix spécial du jury 2016, voilà, pour mettre sur leurs albums. C'est une petite réponse hein, finalement, puisque bah oui, effectivement, ils faisaient partie de ces éditeurs album qui avait gagné, mais qui en fait n'avait rien gagné du tout, puisque en fait Richard Guetter a remis des fauves avec des personnages d'animaux qui étaient dans les BD, donc il est allé les choper comme ça. Donc il y avait vraiment des vrais personnages, des vraies histoires, des vrais albums, des vrais auteurs et des vrais éditeurs, et tout ça évidemment n'a pas bien plu. Bon, il s'est excusé, hein, il a fait un grand texte dans Le Monde qu'il a publié hein, sur le.
C'était pas méchant hein, ce qu'il a fait, c'est juste que ça.
Non.
Ça n'a pas marché.
Non, il s'excuse et puis alors surtout ce qu'il dit, mais et il le dit dès le départ et il le dit à la fin pour conclure. Non, ce n'était ni l'endroit, ni le moment, ni l'année pour tenter un truc pareil. Non, ouais, c'était l'émission 2016. Vraiment, fallait Jurisquoi rester classique jusqu'au bout parce que franchement, tout a foiré.
On va parler un petit peu de Poussin.
Ah, je veux bien que tu m'expliques.
Alors pas du peintre, hein, mais vous savez les.
Ouais, j'ai hésité. Puis quand j'ai vu le mot broyé à côté voilà. Dans ton déroulé, je
non,
me suis dit.
C'est non, c'est le petit poulet hein, ou la poule.
Jaune, tu veux dire.
Jaune, tout ça, tout mimi, la kikakette. Voilà. Bon, on va parler de ça. En fait, il y avait une audience mardi au tribunal correctionnel de Brest contre une entreprise qui s'occupait de poussins. En fait, c'est un couvoir, très exactement. C'est là où on fait couver. Les poussins et donc ils étaient poursuivis entre autres pour maltraitance, mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde, très exactement pour reprendre les termes officiels. Et donc à l'issue de l'audience de mardi, le procureur a requis 30 000 euros d'amende et 5 000 euros d'amende, alors avec donc 15 000 avec sursis et 5 000 euros d'amende pour le couvoir et 6 mois de prison avec sursis pour le président de l'établissement. Alors dans les faits, si on rappelle l'histoire, c'était assez atroce. C'était une vidéo hein, qui avait été filmée et révélée par L214, le site pour qui défend le droit des animaux. qui montrait la tuerie routinière qu'il peut y avoir dans les élevages de poussins, dans les couvoirs, où ils sont jetés vivants. Alors normalement, ils sont broyés. Ça, c'est autorisé. Donc il y a une espèce, il y a deux espèces de roues, et ils jettent, enfin de roues de grandes roues, de, et ils jettent les poussins au milieu, ils sont broyés.
C'est dégueulasse.
Mais ça, c'est autorisé.
Ah ouais.
Non, là, ce que faisait cette belle entreprise, c'est que ça devait être trop lent. Donc il les balançait dans un sac poubelle, et puis après il les étouffait. Donc ils avaient, alors d'abord dans une vis sans fin, donc c'est une grosse, comme une grosse mèche de perceuse, ce qui permettait de déplacer les poussins et les faire tomber dans les poubelles. Donc
ils souffraient. Vous imaginez bien. Ils souffraient
la mort là tout le long. Et puis après dans la poubelle ils étaient étouffés. Donc c'était un poil difficile pour les poussins. Alors a priori ça caquetait fort, donc c'est qu'il fallait vraiment souffrir les pauvres petites bêtes. Donc, ils ont été poursuivis à cause effectivement de ces mauvais traitements. Ce qui nous rappelle quand même, c'est que c'est pas normal que le broyage continue d'exister, même quand c'est soi-disant autorisé là, avec ces deux trucs qui écrasent les poussins. Donc il y a une mobilisation. Il faut savoir que même quand on mange des poussins issus de labels rouges, enfin les poulets parce qu'on mange pas les poussins, hein, ou de labels bio, c'est les mêmes conditions dans les couveuses. Hein. Donc c'est toujours horrible dans les couveuses. Donc il serait temps un petit peu qu'il y ait des choses mises en place. Alors je vous rappelle que l'idée, c'est que ceux qui sont un peu fatigués, qui ont l'air un peu malades, ou on les met de côté comme ça pour les tuer. Et puis, on tue les mâles.
Oui, s'ils sont triés, en fait, ces poules.
Bah oui, mais parce que en fait, quand les poules elles pondent, la nature fait qu'en général, il y a. Alors, je sais pas si c'est la moitié, mais il y a une répartition, hein, homme-femme, j'allais dire femelle-mâle chez les poussins. Assez logique pour que l'espèce se perpétue. Tu vois, un truc qui fonctionne pas mal dans la nature. Sauf que l'homme, il n'a pas besoin des coqs. Il en a besoin un de temps en temps, mais on a besoin de poules pour que ça ponde. Du coup, on jette tous les mâles, on les massacre. Donc c'est assez horrible de voir les images. On n'a pas conscience quand on mange des œufs ou quand on mange du poulet que avant il y a eu toutes ces séances de torture. On pourrait avoir des œufs et du poulet avec des choses qui sont plus respectueuses, moins de torture. C'est pas impossible non plus. Les végétariens nous vous diront que non, mais en tant que non végétarien, on peut vous dire que on pourrait quand même vraiment améliorer les choses. C'est ce qu'essaye de faire L214, même s'ils sont plutôt végétariens, voire véganes. Okay. Ils sont carrément véganes, mais donc voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même que le tribunal, il condamne là ces 30 000 euros, 5 000 euros suivant si c'est le directeur, le mec qui jetait dans le machin, le responsable technique. Il y a des condamnations pour tout le monde, à savoir que l'établissement a fermé la partie couveuse ou couvoir depuis les révélations et continue le reste, hein, parce qu'ils ont de l'élevage avec des poulets qui caquettent et qui grandissent. Donc voilà, c'est quelque chose qui révèle que bah voilà, on peut pas maltraiter forcément les animaux et que la justice peut condamner. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Moi, je me souviens d'images tournées dans une usine au Brésil où les personnes qui triaient les poulets les jetaient dans des bacs, quoi. C'est-à-dire que ça allait très vite.
Et puis des fois, il y en a qui tombent par terre.
Ah, ouais,
parce qu'en fait, il faut être, comme d'habitude dans le monde libéral, il faut être productif. Et du coup, ils regardent le sexe, tac, tac, ils balancent, ça va très très vite.
C'était déjà des images, je trouvais, très difficiles.
Voilà. C'est encore moi, je vais vous parler très très brièvement, on va dire, des données de connexion accessibles aux services de renseignement. Ouh là là, c'est la suite de la loi sur le renseignement. En fait, la loi sur le renseignement est passée il y a un certain temps, et les décrets arrivent au fur et à mesure. Le week-end dernier, un des décrets les plus attendus est sorti, et ça touche en fait la mécanique de surveillance mise en place par l'État pour avoir accès aux données. Donc on apprend par ce décret que tout ça va être confié à un groupe interministériel de contrôle, un GIC plutôt on va dire, groupe interministériel de contrôle, dont le président a été d'ailleurs nommé dimanche dernier par Manuel Valls. Ce GIC là, ça existait déjà, ça a été créé dans les années 60, officialisé seulement en 2002, hein, parce qu'on faisait déjà de la surveillance mais on le disait pas trop. C'est placé au prêt du Premier ministre, hein, c'est pas la justice qui va décider, hein, c'est bien le Premier ministre, c'est bien l'État, enfin l'État, voilà, la branche exécutive. Et c'est eux qui vont recueillir les données techniques, les métadonnées comme on dit aujourd'hui, et qui vont les conserver auprès, donc ils vont les recueillir auprès des intermédiaires techniques, des hébergeurs, des FAI, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet. Donc le texte définit quelles données vont être recueillies et un petit peu comment aussi. Donc c'est l'article, c'est le R851-5-1 qui définit ce qui est visé, ce qui est pas visé et ce qui doit finalement être gardé et combien de temps. Alors à savoir que normalement, au bout d'un certain temps, les données sont censées être effacées. C'est l'appellation officielle, les données sont conservées un certain temps. Bon, quand on sait ce qui se passe dans les fichiers informatiques, ce qui a déjà été révélé, on sait qu'en général, l'effacement est plus aléatoire. Alors, je vais pas détailler tout ce qui a été annoncé et ce qui a été publié au journal officiel, mais je vais juste déjà vous donner quelques informations qui peuvent glaner. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne vont pas récupérer le contenu des communications, par exemple. Ça, c'est une procédure judiciaire qui doit être mise en place avec des écoutes, etc. Non, ils vont récupérer, alors par exemple auprès des opérateurs de communication électronique, les caractéristiques techniques, c'est-à-dire la date, l'horaire, la durée de la communication, le destinataire, l'origine, ils vont récupérer toutes ces infos. La même chose à peu près auprès des opérateurs de téléphonie. Donc ils vont récupérer toutes ces infos. Auprès des fournisseurs d'accès Internet, ils vont récupérer voilà, ce qu'on va voir et d'où ça part. Et puis aussi les identifiants de connexion, l'identifiant attribué à des personnes par, enfin à l'abonné, toutes les infos finalement liées à la connexion. Au niveau des hébergeurs, là où sont les serveurs, où sont hébergés les sites internet ou les forums ou des choses comme ça. Donc là, c'est pareil. L'identifiant de la connexion sera donné. Donc toutes les caractéristiques, les protocoles de connexion, savoir si c'est codé ou pas, des choses comme ça, les dates, les heures de l'opération, enfin voilà, ils sauront à peu près tout. Et si jamais c'est quelque chose de payant, ils auront aussi le type de paiement, la référence du paiement, le montant du paiement, la date et l'heure de la transaction. Grosso modo, ils n'ont pas forcément le contenu total, mais ils ont accès à tout ce que vous avez pu faire et qui aura été décidé par ce groupe interministériel de contrôle. Donc voilà. Alors ça c'est ce qu'on appelle les données glanées en temps différé, hein, c'est-à-dire que c'est des choses qui seront demandées à posteriori par le ministère de la Défense, on va dire, ou de l'Intérieur, ou les ministères de Bercy, enfin ça peut être Bercy aussi d'ailleurs, les finances. Mais il y a aussi des choses qui sont demandées instantanées, ces fameuses black box là qui vont venir surveiller. Voilà, tout a été donc quasiment dévoilé et officialisé ce week-end au journal officiel. Donc ça y est, la surveillance généralisée de la population est officielle et a commencé.
Très brièvement, pour vous dire qu'aujourd'hui, les agents de la protection de l'environnement étaient en grève. Alors ils travaillent. Il et elle travaille pour l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par exemple, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par exemple. Hein. Donc aujourd'hui, il y avait un appel d'une intersyndicale, CGT FO, UNSA Écologie, le Syndicat national de l'environnement FSU, et puis le SNAP Solidaire. Donc ces syndicats dénoncent un manque de moyens, un manque d'effectifs et puis une dégradation des conditions de travail. Évidemment, tout ça c'est lié. Hein. Par exemple, le fait d'être de moins nombreux, ben ils peuvent moins faire leur boulot, tout simplement. Donc ils expliquent que ben, l'environnement, on en entend beaucoup parler hein, au niveau du gouvernement, mais en même temps, on leur donne pas les moyens de travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui semble revenir quand même fréquemment, le fait de pas pouvoir mener ses missions à bien. Par exemple, le fait de pouvoir ne pas traiter les signalements qui leur sont rapportés, ben ça c'est un vrai problème. Ils sont amenés à faire des choix et donc ben voilà, le boulot est mal fait. C'est pas moi qui le dis, c'est oui, c'est elle. Hein. À Lyon, donc il y a eu un rassemblement place Bellecour. Il y avait des stands et puis surtout les grévistes se sont rendus place des Jacobins et ont mis du colorant vert dans l'eau. On connaissait souvent le colorant rouge pour les massacres, et ben le colorant vert est aussi apparu place des Jacobins. Voilà pour montrer que ça fait un moment quand même qu'ils appellent un peu à l'aide et que personne les écoute et que commence à y en avoir marre et que ça nous concerne tous et toutes puisque ils sont là aussi pour protéger notre environnement et que pour l'instant ils peuvent pas bosser correctement.
Voilà, il y avait d'autres grèves aujourd'hui, notamment en soutien aux Goodyear. Ouais. Voilà, il y en a une à Lyon, qui, un rassemblement qui s'est fait tout à l'heure à partir de 18h. Alors, on va parler un peu d'environnement maintenant. Et je vais faire ces fameuses routes solaires.
Oui, s'il te plaît.
Routes solaires, là. Donc, ça a été annoncé en grande pompe par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, et ça a été repris par tous les gros médias dominants pour nous dire « c'est génial, on va installer des panneaux solaires sur les routes et ça va produire des millions de mégawattheures ». Alors, on va revenir sur ce truc-là qui est un peu bizarre. C'est lancé par l'entreprise Wattway. Non, elle s'appelle Wattway et c'est l'entreprise Colas qui lance ça. Ça dépend de Bouygues, c'est une filiale de Bouygues. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est des panneaux solaires qui sont mis sur les routes et qui sont censés être plus résistants parce que forcément, quand une voiture ou un camion passe dessus, il faut que ça tienne. Sauf que l'analyse, elle est beaucoup plus négative que ce qu'a laissé entendre le ministère et leurs amis médias, leurs amis journalistes. Puisque, tel que Ségolène Royal l'avait annoncé, elle voulait 1000 km de routes solaires d'ici 5 ans. En gros, ça fait 200 km par an. Un appel d'offres, d'ailleurs, devrait être lancé ce premier semestre 2016. Ça veut dire qu'il faut trouver, grosso modo, 2700 millions d'euros, c'est-à-dire 2,7 milliards d'euros. Quand on voit le peu d'investissement qu'il peut y avoir dans le vrai développement durable, ça paraît être une somme énorme. On ne sait pas où ils vont les trouver, où elle a annoncé ça, elle a sorti ça de son chapeau, on ne sait pas d'où. En tout cas, il y a eu pas mal de critiques qui sont apparues sur ces routes solaires. Malgré le prix qu'ils ont eu lors de cette escroquerie qui s'appelait la COP21, ils ont eu le trophée Solution Climat. Alors les critiques elles viennent d'un peu partout. Il y a un site américain par exemple qui s'appelle Clean Technica qui diffusait une vidéo un peu marrante qui explique pourquoi cette technologie n'est pas fiable, ce serait une impasse, en montrant que les investissements publics, enfin financiers, seraient trop importantes. Ils ont pas mal critiqué. Alors c'est venu de ce site là sous un truc un peu marrant, mais il y a aussi des choses plus sérieuses, plus scientifiques, notamment le CLER, le réseau pour la transition énergétique, le réseau TEPOS, territoire à énergie positive, qui ont fait des communiqués en disant que c'était une très mauvaise idée. Alors pourquoi c'est une très mauvaise idée ? Parce que là pour l'instant on n'a pas tout à fait compris quel était le problème. Alors, bien sûr, dans la vidéo marrante de Clean Technica, il y a, vous avez un trou sur une route, qu'est-ce que vous faites ? Ben, n'importe quel mec qui sait faire un bout de goudron, donc des entreprises de travaux publics, il y en a plein, elles vont boucher le trou, ça prend 5 minutes, c'est facile à faire. Là, si vous avez un problème dans un panneau solaire qui est posé sur la route, ça va être compliqué à faire. Donc, ça va coûter une fortune, la moindre petite réparation. Mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'en fait, les calculs scientifiques sont très très mauvais. Alors même si officiellement Wattway dit que ça va marcher super bien, que ça va durer 25 ans, alors 25 ans c'est moins que les panneaux solaires qu'on pourrait avoir aujourd'hui, même si la durée de vie officielle ça reste 25 ans des panneaux solaires qu'on vend pour mettre sur les toits, mais la durée réelle elle sera plus importante, ça produira juste un peu moins. Et c'est quand on regarde le retour énergétique entre la consommation, enfin l'énergie qu'il a fallu mettre pour le construire, l'installer et l'entretenir, et ce qu'on va récupérer, il y a plusieurs scientifiques qui ont dit, ben non, si on calcule, on est du 1 pour 1, c'est-à-dire que au moins de petits trucs, ça coûtera plus cher en énergie que ça n'en rapportera, que ça en créera. Alors pourquoi ? Parce que on n'est pas sûr d'abord que ça tienne, le premier truc, parce que Wattway, ils y sont allés, ils ont dit « Ah non, mais attendez, on a calculé, ça peut tenir des milliers de passages de camions, on a déjà fait des essais, ils ont dit ça, 1 million de passages de route camion. » Alors comme ça, 1 million de passages de route camion, c'est énorme, on se dit « C'est cool, ça va durer 50 ans ce truc. » Ah mais non, sur un trafic normal, c'est 20 jours de trafic. 20 jours, donc, parce qu'il y a 5 essieux par camion de roues, donc ça fait 5 passages de roues, 10 000 camions par jour, on en est là. Du coup, s'ils ont testé que sur ça, ils garantissent 20 jours leur panneau solaire pourri là. On n'est pas sûr que ça glisse pas, on n'est pas sûr. Alors ils disent qu'il faut que la route soit parfaitement plane, il n'y a aucune route parfaitement plane en France. Faut le savoir. Donc, faut construire des nouvelles routes super canons, taillées réglées au laser là pour que ça soit plat. Bref, ça semble pas une bonne solution pour l'environnement. On a plein d'endroits où on peut mettre des panneaux solaires, tous les garages, les zones industrielles, les bâtiments qui servent à rien. Voilà. Bon, on le fait pas. Pourquoi ça ? J'ai pas tout à fait compris. Peut-être que Bouygues est une entreprise très puissante et qu'il a ses entrées au ministère de l'Environnement. En tout cas, ça reste un mystère, cet emballement, aussi bien médiatique que de la ministre Ségolène Royal pour cette solution, alors que c'était juste une annonce d'un groupe capitaliste qui est assez peu crédible dans la protection de l'environnement. Hein, Bouygues, ils sont plutôt spécialistes des choses qui détruisent l'environnement. Hein, on rappelle qu'ils construisent beaucoup de choses et que le ciment, ça a un impact énergétique énorme chez nous. Donc voilà, ça apparaît mystérieux quand même, tout cet emballement.
Tu voulais peut-être nous parler vélo.
Ouais, non, mais juste un petit chiffre marrant. On avait pas mal critiqué ici et ailleurs ce qui a été mis en place à Londres pour limiter le nombre de voitures. Ils ont mis un péage, du coup seuls les riches peuvent rentrer dans Londres. Mais ça a un impact qui est quand même positif, puisque la circulation a beaucoup, beaucoup diminué. Et les vélos se sont énormément développés. Et alors aujourd'hui, le nombre de voitures qui rentrent dans Londres a été divisé par deux. Donc c'est énorme. Hein. Donc on est passé de 137 000 véhicules qui rentraient par jour dans Londres à 65 000 aujourd'hui. Et en proportion, en comparaison, les cyclistes qui étaient 12 000 à la même époque, c'est-à-dire au début des années 2000, ils sont aujourd'hui 36 000 à rentrer dans Londres. Et si on suit l'évolution, bah, d'ici 4-5 ans, il y aura plus de vélos qui vont rentrer dans Londres que de voitures. Finalement, ce péage, qui était un truc discriminant pro-riche, a eu finalement un vrai effet positif. Alors, l'idéal aurait été de faire une discrimination différente et pas sur l'argent, hein, mais c'était le plus facile à mettre en œuvre, hein, puisqu'on met des péages, on fait payer, et du coup, ça limite forcément, vu le prix des péages qui sont exorbitants. Voilà. Mais c'était le moyen le plus bête et le plus efficace et qui coûtait le moins cher pour limiter la circulation, mais ça a marché quand même, hein, finalement. Bon, les pauvres, ils se sont mis au vélo, quoi, en gros. Et ça protège l'environnement. Ça serait bien que les riches se mettent aussi au vélo.
Et après, les poussins, le saumon?
Ah, je vous avais parlé du saumon OGM.
Oui,
saumon
oui.
OGM.
On se souvient.
Qui a été autorisé par la FDA, la Food and Drug Administration. C'est l'instance américaine qui s'occupe de la bouffe. Et c'était la mauvaise nouvelle, parce que c'était la première fois qu'on avait un animal génétiquement modifié qui rentrait sur le marché et qui pouvait être mangé, avec des conséquences qu'on ne connaît pas. C'est le problème des OGM. C'est potentiellement, on ne sait pas bien ce que c'est, ce que ça peut avoir. C'est développé par Aqua Bounty Technology. L'objectif de ce saumon, c'est qu'il se développe beaucoup plus vite. Donc ceux qui vont l'élever, ils vont gagner plus d'argent. Il sera pas meilleur, ça c'est sûr. Il sera même moins bon, hein, puisque forcément, quand on grandit plus vite, la chair a moins le temps de s'imprégner des choses importantes et des choses qui donnent du goût. Mais on s'en fout. Le but, c'est de produire vite et beaucoup. Il y a eu une mobilisation énorme aux États-Unis, mais énorme. Alors il y a deux États, hein, qui sont mobilisés tout de suite, la Californie et l'Alaska, en interdisant la vente et la production de saumon. Mais plein de choses ont été mises en place, et notamment la sénatrice de l'Alaska qui s'appelle Lisa Murkowski, qui a fait énormément de choses, qui a fait pression, et du coup la Food and Drug Administration a reculé. Alors ils n'ont pas interdit, mais ils ont dit, il faut qu'on fasse plein de choses, notamment peut-être qu'on mette en place l'étiquetage des OGM, ce qui n'existe pas du tout aux États-Unis. Et donc ils ont plein de choses à mettre en place. Ils ont annoncé que avant que l'autorisation soit efficace, ils ont plein de choses à mettre en place. Ils ont détaillé ces choses, comme je dis, hein, l'étiquetage, mais plein d'autres éléments. Ce qui fait que ça va repousser sur un temps relativement long, de plusieurs années, la décision finale. Donc c'est une bonne nouvelle, puisque pour l'instant, les images qu'on a pu voir, les saumons ont une sale gueule, hein, quand cette race de saumon génétiquement modifiée, parce que comme ils grandissent trop vite, ils grandissent de manière disproportionnée, du coup ils vont jamais les vendre en entier, parce que c'est des saumons bizarres. Ils sont boursouflés, donc on les aura dans les préparations pour les pauvres qui contiennent du saumon. Grosso modo, hein, c'est pour faire ça, de la bouffe pourrie pas chère. Et forcément, ça s'adresse avant tout aux gens qui n'ont pas les moyens. Donc voilà, pour l'instant, un petit recul quand même aux États-Unis d'Amérique, et peut-être un développement important s'ils généralisent l'étiquetage des OGM, puisque pour l'instant, c'est pas possible. Il nous reste 4 minutes, on a le temps de faire une petite info pour dire que l'Europe a reculé énormément hier sur la pollution au diesel, puisqu'ils ont autorisé les constructeurs à ne pas respecter les normes. Donc voilà, ça fait 10 ans, hein, que c'était en 2007 très exactement, que les nouvelles normes anti-pollution ont été annoncées aux constructeurs, donc ils avaient 10 ans pour se mettre à niveau. Et là, bon, ils n'y arrivent pas, ils trichent, on a bien vu toutes les affaires. Et là, hier, le Parlement européen, qui en général est plutôt positif sur l'environnement, c'est-à-dire fait plutôt des lois qui sont mieux que celles des pays, en moyenne, bah là, ils ont énormément reculé, puisque ils auront, les constructeurs auront le droit d'émettre, par exemple, 2 fois plus d'oxyde d'azote que c'est écrit dans la loi, 50% de plus d'autres polluants, enfin voilà, c'est une catastrophe totale. Ça démontre que les constructeurs automobiles ont quand même énormément de poids et que les lobbies sont toujours très très forts au niveau de l'Europe. Voilà pour les infos de ce jour, de ce jeudi 4 février 2016. Quelques petites infos sur l'agenda. Donc moi j'ai noté le collectif du projet Centre Social Autogéré, qui continue de faire des petites bouffes, des réunions. Ils ont un peu d'argent, à force, ils ont toujours pas trouvé de local. Mais là, ils font une nouvelle fête, une nouvelle réunion, le 5 février, donc demain soir, à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, dans le 7e, et ils projettent Dicknet, ce film délirant belge.
Ça me fait beaucoup rire.
Ouais, c'est assez incroyable, assez énorme.
Je crois que j'ai dû le voir au moins 22 fois.
Voilà, à 19h30, demain soir, si vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, cette soirée sera belge, donc il y aura des frites maison. C'est sympa quand même. Hein. Sinon, samedi, plusieurs choses. La deuxième manif contre l'état d'urgence, on en a une samedi dernier, avec à peu près 1 millier de personnes à Lyon.
On espérera qu'elle sera moins glauque.
Triste.
Ouais. Triste. Je ne sais quel est le vocabulaire que nous devons employer.
En tout cas, cette manif-là partira de 14h à 14h de la place Jean Massé ce samedi 6 février. Et puis pour terminer, le 6 février toujours, Terre des Livres. Vous savez qu'il y a souvent des rencontres, on les annonce à Terre des Livres avec des auteurs et pour faire des débats. Et là, c'est un débat autour de l'agisme et... On a le retour de Yves Bonnardel, hein, qu'on connaissait bien dans les années 80 et 90 à Lyon, qui est là, qui vient parler du livre qu'il a écrit, qui s'appelle L'oppression des mineurs, donc autour de la domination des adultes, qu'on appelle l'agisme. Hein, donc il y a c'est une sorte de télescopage. Il y a la revue L'Abordage, hein, qui est spécialisée dans ce domaine-là, qui vient parler et échanger des idées donc avec ceux qui seront là et celles et ceux qui seront là et Yves Bonnardel présent aussi. Donc voilà, c'est samedi 6 février à 15h, librairie Terre des Livres, ça se situe sur la rue du Rectorat, donc je me rappelle jamais comment elle s'appelle, dans le 7e.
Alors il paraît qu'il y a des super moteurs de recherche maintenant, si vous
d'accord.
Êtes perdu.
La librairie Terre des Livres.
Avec des GPS dedans.
Bon, OK, merci. Voilà, il nous reste 17 secondes. Pour vous dire au revoir, vous souhaiter tout le bonheur du monde.
Ciao, ciao.
Et vous laisser en compagnie de l'émission Papillon, diffusée en direct de Radio Dio à Saint-Étienne. Est-ce que c'est prêt?
C'est prêt.
Est-ce que j'ai levé le curseur? Je n'entends point de son.
Okay.